Le microcrédit peut-il tenir ses promesses ? Première Alter Mardi, parlons solution de l'année avec véritablement salle comble. Premier volet d'un cycle de 3 conférences, argent et autonomie, en partenariat avec le magazine Interdépendance et avec Reporters d'Espoir, avec cette interrogation en forme de scandale. À qui profite le microcrédit ? Vague de suicide en Inde, opération peu scrupuleuse aux dépens des emprunteurs, le microcrédit, cette solution qui a fait le tour du monde depuis 1976, souffre-t-il d'une crise systémique ? Jean-Luc Perron, directeur général de la Fondation Gramen Crédit Agricole pour la microfinance.
Il y a une crise autour de la microfinance parce que peut-être on l'a portée au pinacle à un moment donné de façon exagérée en la présentant comme la solution miracle au problème du développement, ce qui était tout à fait excessif. Le microcrédit est une contribution, une innovation et une contribution importante à la question du développement. Je ne développe pas ce point, mais loin de moi de penser que ce soit la solution unique ou la solution miracle. Du coup, après un excès d'honneur, il y a un excès d'ignominie. On accuse la microfinance de tous les péchés. On l'assimile même parfois à la crise des subprimes aux États-Unis. Et de là, on en vient à penser que c'est même une crise systémique. Non, ce n'est pas une crise systémique, dans la mesure où une institution de microfinance ne dépend pas d'une autre institution de microfinance, ne dépend pas, sauf exception, des grands marchés financiers. Et que donc, même si une institution fait défaut, elle n'entraîne pas dans sa chute ni sa voisine, ni tout le système.
Pas de crise systémique, mais une indéniable dérive. Arnaud Poissonnier, fondateur de Babylone, le site internet du microcrédit en ligne, troisième plateforme au monde de microcrédit.
Il faut faire très attention parce que les gens qui en parlent ont tendance à en faire une généralité. Aujourd'hui, il y a une dérive du microcrédit sur une partie de l'univers de la microfinance et du microcrédit. C'est difficile à quantifier. Est-ce que c'est 5-10%? C'est probablement pas beaucoup plus. Mais il y a une partie, ce qu'on appelle les institutions de microfinance, qui sont devenues trop commerciales, qui ont été investies par des capitaux trop mercantiles, dont des investisseurs qui sont venus dans la microfinance avec pour seul objectif d'avoir du retour sur investissement, de gagner de l'argent, de faire des plus-values, etc., et qui ont un peu oublié la dimension sociale du microcrédit. Et donc ça crée un certain nombre de déviances dans l'univers. Donc ça c'est pas sans conséquence.
En question, les taux d'intérêt pratiqués, 20-25% sont-ils trop élevés ? Jean-Luc Perron.
On parle de pays où le système bancaire, tel qu'on le connaît en Europe, ne touche que 5 à 30% des gens. En Éthiopie, il y a moins de 400 agences bancaires pour un pays de 80 millions d'habitants. 98% des gens n'ont aucun accès à un système bancaire formel. La proportion inverse de celle qui est observée en France, où 98% des ménages ont un compte bancaire. Donc dans ce contexte-là, la microfinance est la seule alternative aux usuriers. Donc il ne faut pas, évaluer ou critiquer le taux d'intérêt pratiqué par la microfinance par rapport à une norme occidentale. Tout le monde n'a pas une inflation à 1%, une banque centrale européenne qui fait des taux d'intervention à 1%. Ces gens vivent dans des pays avec une inflation plus forte que la nôtre. Et surtout, on leur prête des sommes extrêmement faibles, $100 en moyenne, par exemple, sur 6 mois. Or, le coût fixe pour faire un prêt de $100 sur 6 mois n'est pas très différent du coût fixe pour faire un prêt de $1000 sur 2 ans. La seule différence, c'est que la marge d'intérêt est de 1 à 20 entre les deux situations. Donc, une institution de microfinance qui est fidèle à ses missions et qui veut viser les plus pauvres et qui fait des montants de crédit très faibles, si elle veut survivre, est obligée de pratiquer des taux d'intérêt élevés. Et le taux de 25% est malheureusement n'est pas une exception, non, c'est effectivement plutôt la moyenne observée. Là où ça devient tout à fait une dérive, c'est lorsqu'on observe dans certains pays, et parfois par des institutions importantes, dont certaines se sont introduites en bourse, des taux de 100%. Alors là, on est clairement dans une dérive et un abus qui ternit toute la réputation de la microfinance. Alors la réponse ne serait pas complète si on n'indiquait pas que la nature des activités financées, dans 99% des cas, qui sont des activités commerciales ou artisanales, avec un cycle de production et de commercialisation qui est de 24 heures à une semaine ou 15 jours, permet très facilement, dans l'immense majorité des cas, d'absorber le taux d'intérêt. Et les emprunteurs en microfinance ne réagissent que très faiblement sur le niveau du taux d'intérêt. Eux, ce qui leur importe, c'est d'avoir accès à un crédit qu'ils ne pourraient pas avoir autrement pour acheter un stock matière, acheter un petit équipement, acheter un vélo, acheter une machine à coudre, et pour faire une petite activité qui produira des revenus dans une proportion infiniment supérieure par rapport aux intérêts.
En cause, l'engouement suscité par le microcrédit, seule source d'accès à l'argent dans bien des pays, situation de surendettement, voire des politiques peu sérieuses qui ont raconté qu'il n'était pas nécessaire de rembourser. Arnaud Poissonnier.
Ça veut dire que le microcrédit s'est développé très vite et qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays où il s'est développé sans réglementation, de manière complètement dérégulée, un peu sauvage, et que du coup, ça attire un peu tout le monde dans tous les sens et que bah, du coup, il y en a par endroit, il y en a trop, il y a de la surconcurrence avec des phénomènes graves, hein, de type surendettement, voire suicide, parce que quand des institutions de microfinance ont pour objectif de gagner de l'argent, pour objectif exclusif le profit, bah, évidemment, elles sont très dures sur le recouvrement parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait d'impayés, la dimension humaine et sociale a tendance à disparaître. Donc voilà, donc c'est souvent effectivement dans des univers de pays qui ne sont pas réglementés, qui sont, oui, c'est un peu le sujet. Et on les connaît, hein, c'est aujourd'hui une petite dizaine de pays dans le monde où on a ces phénomènes de surconcurrence, de surendettement qui se développent, mais c'est en aucun cas le cas dans tous les pays du monde et dans toutes les institutions de microfinance.
Ça touche quel pays, justement ?
Oh, pour vous donner quelques exemples, hein, ça a commencé il y a 2-3 ans au Maroc. Plus récemment, on retrouve ce phénomène au Bangladesh, une partie de l'Inde, au Nicaragua, un peu au Cambodge également. On a quelques sources aussi aux Philippines dans certaines zones, en Bosnie, pour parler de l'Europe centrale. Donc voilà, il y a un certain nombre de pays, on les connaît, où ces problématiques se sont développées depuis quelques années. Et on n'est plus sur un marché de demande, hein, de gens qui sont prêts à créer une entreprise et donc qui ont besoin d'un microcrédit, qui vont le demander aux institutions de microfinance. On se retrouve dans des pays où c'est un marché d'offres, c'est-à-dire où vous avez plus d'institutions de microcrédit que de besoins sur le terrain, et vous avez des institutions de microfinance qui essayent de fourguer du produit, hein, je pèse mes mots, qui font du push product, donc ils poussent les gens à prendre du microcrédit sans regarder trop si les gens le font pour développer un business ou s'ils le font pour du crédit à la consommation, parce que leur objectif c'est d'avoir le plus possible de clients pour être le plus rentable possible, et du coup elles sont plus regardantes. Et on se retrouve avec des pays où vous avez des gens qui ont 4-5 microcrédits. Vous imaginez bien, dans les pays en développement où vous avez une faible culture de la finance, les gens ne se rendent pas du tout compte ce que ça peut représenter que demain ou dans 6 mois d'être surendetté. Les gens, quand ils ont pris 3-4 microcrédits, un jour ils se disent « Merde, on ne peut plus rembourser ». Ils se retrouvent coincés, ils vont chercher un cinquième microcrédit pour rembourser le premier, donc ils font de la cavalerie. On appelle la cavalerie. Évidemment, ça aboutit à des drames, parce qu'il y a un moment où ça n'est plus supportable. Mais c'est ça qui est grave, c'est d'avoir des institutions de microfinance qui sont peu regardantes sur ce genre de pratiques et qui entraînent ce genre de dérive.
La preuve qu'il est possible de travailler proprement et efficacement, par exemple depuis la France avec l'Inde, Frédéric Taillé, cofondateur de Credit at People.
Nous passons par des ONG relais qui parlent la langue et qui connaissent la culture des personnes auxquelles nous nous adressons. Ces ONG relais, en général, s'adressent à des groupes de femmes qui sont employées pour le compte d'autrui et en général très très mal payées, misérablement payées. Et en fait, elles viennent vers nous en souhaitant travailler à leur compte, de manière tout simplement à avoir un meilleur salaire. Donc ça, c'est assez important et très précieux pour nous, parce que nous n'avons pas à les former à leur métier. Elles savent déjà exercer le métier pour lequel nous allons leur faire un prêt. Si elles ne sont pas en groupe, en tout cas, nous leur proposons de former un groupe, ce que nous appelons un groupe rural. Et grâce aux ONG relais, nous participons à leur formation. Nous voulons en tout cas qu'elles maîtrisent au maximum des outils très simples de comptabilité, de manière à savoir où elles vont, combien d'argent sort, combien d'argent rentre. Nous formons également les ONG relais à tenir un compte d'exploitation. Et nous avons un accompagnement qui est quasi quotidien, c'est-à-dire que nos ONG relais leur rendent visite, voient tout simplement au jour le jour quels problèmes elles peuvent rencontrer dans tout simplement la création de leur entreprise et la mise en œuvre de leur entreprise.
Faut-il s'en tenir à la polémique qu'elle a considérée comme une remise en cause de l'ensemble du microcrédit ? Jean-Marc Borde, directeur général de Reporters d'Espoir.
Une polémique arrive quand quelque chose a beaucoup de succès. De toute façon, notre pays fonctionne comme ça. Quand quelque chose va très très bien, on a tendance à le critiquer et à trouver des points faibles. Apparemment, il y a des points faibles qui sont véridiques d'ailleurs. Il y a quelques brebis galeuses dans le système du microcrédit. Et pour les éliminer, il faut effectivement qu'il y ait un label qui permette aux organismes sérieux de se distinguer par rapport à des organismes qui ne pensent qu'à la rentabilité et à la finance ou qui surendettent des populations. C'est l'occasion de mettre un terme à ces dérives et de repartir du bon pied pour que le microcrédit puisse prendre une ampleur véridique et atteindre un degré de maturité raisonnable.